Bonjour. Aujourd'hui, vous le savez, a priori tous, nous terminons les psaumes. Nous avons commencé en début d'année, donc moi c'est mon dernier psaume. Donc je préviens mon ancien, mes anciens, c'est le dernier. Et j'ai été ravi de pouvoir essayer de traiter plus en profondeur ces textes que l'on lit régulièrement, mais quand on a entre guillemets l'obligation d'aller plonger au cœur de ce qu'ils disent, on découvre des choses passionnantes. Le dernier que j'ai choisi, c'est pas n'importe lequel, à mes yeux, c'est un très court, c'est le psaume 100. Et pourquoi avoir choisi celui-là, en dehors du fait qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont déjà été choisis, mais celui-là m'est tout de suite apparu de façon évidente pour nous ce matin, parce qu'il est simple. Il est tellement simple. En plus, il est court. Et souvent, les choses courtes énoncent des idées que l'on va facilement comprendre et facilement retenir. Donc, je voudrais juste vous le lire pour que vous l'entendiez dans sa simplicité et dans sa concision. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Rien que vous ne connaissiez pas, rien de révolutionnaire a priori par rapport à notre foi, à notre cheminement, mais cette simplicité qui dit des, on dirait vulgairement, qui enfonce des portes ouvertes, si ce psaume existe, c'est parce que ça fait du bien de revenir aux fondamentaux. Et il y est question dans ce psaume de choses essentielles, de joie, de fidélité et aussi de vérité sur ce qu'est Dieu. Et toutes les raisons pour lesquelles finalement nous sommes ici ce matin. Quand on ne va pas très bien, et Dieu sait ça peut nous arriver, lire ce type de psaume, ça fait vraiment du bien. C'est Prozac plus, parce que ça nous remet immédiatement dans la vérité de notre foi, dans la profondeur de cette foi, et aussi, j'ose le dire, dans sa simplicité. Finalement, nous croyons à des choses très simples. Et c'est ce que raconte ce psaume. À une époque, j'avais fait des études de journalisme, et on vous apprend très vite la règle des 5 W. Et en fait, devient vite la règle des 6 W. Alors, c'est de l'anglais, parce que toutes les règles ont été inventés par les Anglais, du journalisme jusqu'au football. Et la règle des 5 W, c'est le who, le what, why, where, when, et on rajoute le how. Le W est à la fin. Donc je traduis, je ne suis pas plus bilingue que vous, je vous rassure. What, c'est quoi, who, c'est qui, why, pourquoi, when, quand, where, où, et le how, comment. Donc un bon article écrit correctement, doit pouvoir répondre à ces 5 plus 1 W. S'il manque le where, le who, etc., ben c'est que l'article a été mal fait. Amusez-vous à appliquer cette règle dans ce que vous lisez sur Nice Matin, et vous verrez si Nice Matin est un bon journal ou pas. Je n'épilogue pas. Alors, appliquons cette règle des 5 plus 1 W à ce psaume, voir si, comme je l'ai prétendu, finalement, si on devait écrire un seul article sur notre foi, est-ce qu'il répond à toutes les questions? Commençons par le plus important, le what, c'est-à-dire un article, dire quand il y a eu un incendie, un crime, quelque chose, que s'est-il passé? C'est toujours de ça que parle d'abord un article. Eh bien, ça commence au verset 3, le what il y est, quoi, de quoi s'agit-il? Reconnaissez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et troupeau de son pâturage, de pâturage. La chose est bien dit, on parle de ça, d'un Dieu qui existe et qui nous a créés. Ensuite, où, qui est concerné par le fait divers que relate le journal? Qui est concerné par ce psaume? Eh bien, c'est la terre entière. terre entière, tous les habitants de la terre sont concernés par cette bonne nouvelle de l'existence de Dieu qui nous a créés. Ensuite, when, le quand. Quand a eu lieu ou ce fait divers, et dans le cas de ce psaume, quelle est sa valeur dans le temps. C'est indiqué à la fin. Sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Le temps concerné par ce psaume, c'est l'éternité. Ensuite, le how, le comment. Eh bien, c'est dit, célébrez-le, servez-le, bénissez son nom. Voilà ce que vous devez faire. Ensuite, le where, mais où le faire? Où? Eh bien, dans ses portes, dans ses parvis, le verset 4. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec louange. Et enfin, le why, pourquoi cet événement a eu lieu dans ce matin, et nous, pourquoi ceci a été écrit? Eh bien, c'est la fin, car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Donc, on peut dire que Dieu est un excellent journaliste et qu'il a respecté les règles de base qui font que ce psaume contient tout ce que nous devons savoir. Il ne manque rien et tout est dit simplement, calmement. Vous savez que dans les journaux, quand vous ouvrez une page, c'est pour ça que le Monde a beaucoup de mal à être un journal populaire, parce que les articles sont très longs, fort intéressants mais très longs, et que la majorité des gens veulent des articles plus courts. Là, nous avons ça. Nous avons la concision et nous avons la précision de toutes les informations qui doivent nous être données. Alors, ce qui est intéressant de voir dans ce psaume aussi, c'est le fait qu'il n'y a que des impératifs. L'impératif, vous savez que c'est le mode dans la grammaire française, dans la conjugaison française, qui donne l'ordre, mais l'ordre, c'est aussi le conseil. Et c'est pas pour rien que ce psaume donne des ordres qui sont en même temps des conseils pour ce que nous devons faire. Là, il n'est pas question de savoir est-ce qu'on va... C'est comme ça que vous devez faire. Je vous donne le mal de vous donner de manière concise, de manière précise, pourquoi je suis votre Dieu, pourquoi vous croyez en moi, comment le vivre. Donc, exécutez mes ordres, même s'ils sont donnés sur un ton d'amour et de bienveillance. Donc il y a trois types d'impératifs. Il y a les impératifs d'action, lance, servez, célébrez, bénissez, quelque chose à faire, une action à mener. Il y a des impératifs de mouvement, venez, entrez, bougez-vous, donnez-vous du mal. Et enfin, il y a un impératif de réflexion, reconnaissez que l'Éternel est Dieu. Et à la mesure de ces deux grilles de lecture que je viens de vous donner sur la règle des W du journalisme et les impératifs, je me suis amusé à réécrire le psaume. Je n'ai pas changé un seul mot, mais à le remettre dans l'ordre tel que peut-être il serait encore plus compréhensible pour nous, pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs, en quelque sorte. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous sommes à lui, son peuple et les troupeaux de son pâturage. À partir de là, entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange, venez avec des exclamations en sa présence, lancez une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie, célébrez et bénissez son nom. Et pourquoi faisons-nous tout ça? Car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Dans cet ordre-là, l'évidence de ce qu'il nous a raconté est encore plus vraie. C'est parce qu'il est et l'Éternel Dieu que l'on va aller en mouvement vers lui, que l'on va le célébrer, le bénir, et la récompense et la certitude que ce que l'on fait est bon, c'est parce que sa bonté dure toujours et que sa fidélité va de génération en génération. À la limite, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ou qui le cherche, c'est peut-être ce psaume-là qu'il faut lui lire. Peut-être dans l'ordre que je viens de vous donner. Mais si j'aime bien qu'on le donne dans cet ordre-là, c'est parce que le premier verset que vous allez lire à cette personne qui serait intéressée ou que vous voulez intéresser, c'est « Reconnaissez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. » Et c'est dès ce premier verset-là que vous allez vous rendre compte, que nous nous rendons compte, si les gens vont nous écouter pour la suite ou pas. Parce qu'on se rend bien compte que si ils ne sont pas à l'écoute de cette vérité-là, tout ce qu'on pourra dire après, entrez, bougez-vous, venez dans le temple, venez avec nous, puis bénissez-le, etc. Car sa bonté dure toujours. Tout ça ne fonctionne que parce que le socle du premier verset est posé. Et ce socle-là, c'est « Reconnaissez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. » Et ça, c'est la pierre d'achoppement pour des tas de personnes et depuis des générations et des générations. Parce que ces deux versets-là, c'est le verset contre l'orgueil. Tu parlais d'humilité. Nous sommes au cœur de l'humilité. Dites à quelqu'un, reconnaissez que l'Éternel est Dieu. Ça veut dire, il y a un Dieu. En plus, il est éternel. Donc tout ce que j'essaie d'imaginer sur l'existence de la Terre, de l'univers, il y a une raison. Et c'est Dieu. Et ce Dieu était là avant nous. Il sera là après nous. Déjà, ça pose le débat. Et beaucoup de gens vont vous dire, attendez, non, mais moi, je suis le fruit du hasard, je suis le fruit d'une évolution qui a un sens, et je n'ai pas besoin d'être issu d'un espèce de miracle cosmique que je ne peux pas comprendre. Donc, comme je ne peux pas comprendre, je ne veux pas l'admettre. Et ça continue. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Alors là, qu'il m'ait fait, à la limite, admettons-le, que je ne sois pas le fruit d'un hasard riche qui m'a permis de devenir cette personne importante du XXIe siècle. D'accord. Mais je suis à lui. Mais je ne suis à personne, monsieur. À personne. Peut-être à ma femme, si j'en ai une, jusqu'à ce que le divorce nous sépare quand j'en aurai marre. Je ne suis à personne. Ces deux versets-là mettent tout de suite l'auditeur de toutes les générations, de toutes les époques, face au choix de l'orgueil ou de l'humilité. Et je voudrais continuer sur ce sentiment de l'orgueil, parce qu'il est vraiment à la base de toute la problématique de l'évangélisation, de nos témoignages, de nos propres vies. Qu'avons-nous fait de notre orgueil? Est-ce que nous en avons encore un? Est-ce que les gens qui sont en face de nous peuvent entendre ce qu'on a à leur dire, ce qu'on a à partager, s'ils sont pris dans cet orgueil-là? Et encore, de quel orgueil parlons-nous? Alors l'orgueil, toujours pareil, revenir aux définitions. Sentiment exagéré de sa propre valeur, dit le petit Robert. J'aime beaucoup le mot exagéré. Parce que s'ils avaient mis sentiment de sa propre valeur, pourquoi tirer à boulet rouge sur ça? Nous avons chacun un sentiment de notre valeur. Un tel sait très bien qu'au violon, à l'église, personne n'est meilleur qu'elle. D'autres savent qu'en informatique, c'est moi le meilleur. D'autres savent la vidéo. Enfin, chacun a sa qualité, a son identité, a sa personnalité qui fait que on a le sentiment de propre valeur. Et c'est nous, parents, c'est notre but, quand on éduque les enfants, c'est de leur donner le sentiment de leur propre valeur pour qu'ils puissent trouver leur place et qu'ils puissent y être heureux et faire profiter de cette valeur qu'ils ont autour d'eux. Mais ce que rajoute le Robert, c'est l'adjectif exagéré, sentiment exagéré de sa propre valeur. C'est-à-dire quand on va avoir le sentiment d'une forme de supériorité. Dès qu'il y a exagération, il y a comparaison. Dès qu'il y a comparaison, il va y avoir conflit. C'est mieux, tu es moins bien, c'est pire, etc. C'est au top. Et c'est cette exagération qui est extrêmement difficile à évaluer, et qui fait la différence entre l'orgueil, l'ambition et la fierté. Je pense que la fierté et l'ambition sont des sentiments nobles, mais l'orgueil devient un mauvais sentiment parce qu'il a exagéré cette fierté, exagéré cette ambition. Et ce n'est pas un sentiment anodin. Dieu, dans la Bible, en parle de façon extrêmement difficile, extrêmement violente. Il a des mots très durs sur l'orgueil, dans le sens où je l'ai défini. Ainsi, le psaume 10 au verset 4, je vais vous lire quelques extraits, pour être sûr de, je vous raconte pas des bêtises. Alors, au verset 4, le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Arrogance, orgueil, on est dans des synonymes. Il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Il ne punit pas, sous-entendu, car il n'y a point de Dieu. On revient à mon verset de départ, reconnaissez que l'Éternel est Dieu. Dès qu'on va prendre la porte de sortie, il n'y a pas de Dieu. Donc évidemment, tout est possible, tout est permis. Orgueil premier. Et qui dit ça? C'est marqué dans le psaume, le méchant. Le méchant au sens biblique, c'est-à-dire celui qui a tort, celui qui n'est pas dans la bonne voie, celui qui est dans l'erreur. Un autre verset que vous connaissez aussi et qui est sans aucun, qui ne laisse pas de doute sur ce que pense Dieu de ce sentiment-là, Proverbe 16, 18, l'orgueil précède le désastre et alors là j'ai autre point, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. D'accord ? L'arrogance précède la ruine. Dès qu'on va être dans ce sentiment de supériorité, d'une manière ou d'une autre, on va vers sa propre ruine. Et l'orgueil précède la chute. Donc c'est encore pire parce que le mot chute qui est employé, vous voyez bien qu'il est employé à dessein avec toute l'arrière-pensée symbolique que vous connaissez. Dans 1 Pierre 5, 5, donc je vais le lire, je ne vais pas le chercher, je l'ai marqué, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il donne grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Ça va parce que l'image de Dieu qu'on a souvent, c'est que c'est quelqu'un, à travers la personne de Jésus, quelqu'un qui est toujours ouvert, qui est prêt à pardonner 77 fois, qui dit à la pécheresse, va et ne pêche plus, toujours dans la compréhension. Mais là, il dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Le sentiment d'orgueil est un sentiment qui nous éloigne de Dieu, qui nous écarte de Dieu, qui met un mur entre Dieu et nous. Et dans Proverbe 8, 13, c'est sans doute celui que je préfère parce que je trouve qu'il est extrêmement, extrêmement précis, comme le psaume dont on a pu parler. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et en parallèle, juste après, l'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. En deux lignes, on est placé devant notre responsabilité. Et j'aime beaucoup cet exemple contre exemple. Je répète, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Donc je pense que à partir de ces quatre versets-là, et on pourrait en trouver d'autres, mais j'ai choisi ces quatre-là parce qu'ils me semblent forts et tout à fait compréhensibles, on voit que quand vous êtes face à quelqu'un, et ça vous est arrivé, ça nous est arrivé, qui est orgueilleux au sens où il pense qu'il est lui-même son propre créateur en quelque sorte, même s'il n'imagine pas ou il dit « je ne comprends pas comment je suis arrivé sur Terre », etc. Mais qu'importe, je suis moi. Il y en est en moi, j'ai besoin de personne, même sur Harley Davidson, comme disait l'autre. Eh bien, nous sommes dans le pire des vices. Dans ce qui a été appelé par Jésus le péché contre l'esprit. On ne peut pas combattre l'orgueil. L'orgueil, c'est vraiment la présence du mal dans la personne qui est en face de nous. On peut essayer de parler à quelqu'un qui a des problèmes alcooliques, des problèmes par rapport au jeu, des problèmes par rapport à mille choses. Mais un orgueilleux, c'est une porte fermée. Et c'est quelque chose qui est très, très humiliant pour nous. Parce que l'orgueil va toujours nous renvoyer à notre, ce qui va être dit par eux, notre pseudo-humilité, qui va être pour eux simplement l'excuse de notre ignorance. Comme vous ne connaissez pas, comme vous ne pouvez pas tout dire, vous ne comprenez pas l'alpha du bêta par rapport à la création du monde, par rapport à Dieu, etc. Vous êtes inventé une humilité qui en fait cache votre ignorance. Et nous, à ce moment-là, on doit être fort. On dit non, on n'ignore pas. Psaume 100. Psaume 100. Je reconnais que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui m'a fait, je suis à lui, je fais partie de son peuple et du troupeau de son pâturage. C'est une certitude, je l'ai en moi, je ne suis pas ignorant, c'est toi l'ignorant et l'orgueilleux qui refuse d'admettre ça. Soyons riches de cette connaissance-là. Et cette humilité, c'est pas l'humilité de l'ignorance, c'est l'humilité face à l'incroyable richesse de cette révélation-là. C'est l'humilité face à la grande connaissance, c'est pas l'humilité face à l'ignorance. Alors, ça serait intéressant de voir, parce que là, évidemment, je parle des autres. C'est toujours l'autre qui est très orgueilleux. Mais ici, c'est un nid d'orgueil. Moi, je suis un essaim d'orgueil. Je prends l'exemple. Emmanuel a eu la gentillesse de prier pour moi avec des mots qui me touchent. Mais moi, quand je viens ici, à chaque fois, je me dis, est-ce que c'est pas par orgueil que je viens? Évidemment, c'est plus simple d'avoir, entre guillemets, le don de prendre la parole et de faire des prédications que d'avoir le don de balayer, de faire le ménage. Pendant de longues années, j'étais sur la liste du ménage que Dominique faisait et d'autres personnes. J'ai dû venir une fois. Mais 7 autres fois, je me suis fait porter pâle parce que j'étais fatigué. J'avais des très bonnes excuses. Ah, je peux pas, j'ai pas le temps. Là, hier soir, j'ai joué une pièce jusqu'à 23 heures. J'étais très, très fatigué. Sandrine a eu la gentillesse de me dire, mais si tu veux, on va trouver quelqu'un pour te remplacer. J'ai pensé à toi tout de suite. Et je dis, non, je vais le faire. Mais est-ce que c'est pas par orgueil? Évidemment, c'est plus valorisant d'être là devant vous que d'aller passer la serpillière. Alors, ce que je vais dire là, ça me concerne vraiment moi autant que vous. L'orgueil peut se nicher dans plein d'endroits différents. Et qui peuvent vraiment, alors non pas fermer la porte, parce qu'heureusement, je pense que Dieu nous l'a ouverte une fois pour toutes, il va pas la refermer, mais il peut l'entrebâiller, et ça peut nous empêcher d'aller peut-être plus vite vers dans ses parvis, de moins le bénir, de moins le célébrer. Notre orgueil, il vient d'où? De notre éducation, évidemment. Il vient de notre situation sociale, dans le monde, mais dans l'Église aussi. De nos qualités physiques, je suis plus fort, je suis plus beau, je suis plus belle, je suis plus grande, je suis plus fine, tout ce qu'on peut s'inventer, de nos études qui ont peut-être entraîné nos richesses, de nos gloires personnelles quand on a quelque chose qui marche et qui permet d'être un peu reconnu, de nos âges, les jeunes qui ont l'orgueil de tout savoir et les vieux qui ont l'orgueil de tout connaître. L'orgueil se niche partout. L'orgueil, c'est le poison de nos vies quotidiennes. Alors je ne dis pas qu'à notre niveau à nous, enfin je l'espère, il a fermer la porte à Dieu, je dis pas ça, je dis simplement que parfois il force Dieu à passer par la fenêtre ou par le soupirail pour quand même venir à nous, parce qu'on est persuadé que ça on le sait, ça on le comprend, ça je le sais mieux que toi, c'est clair. Il y a mille raisons de se faire du mal avec l'orgueil, et c'est pas n'importe quoi ce mal-là, parce que vous vous souvenez quand je vous ai dit l'arrogance et l'orgueil, c'est la voie du mal. Le mal s'engouffre là-dedans. Et on sait très bien que dès qu'on tombe dans nos petits péchés mignons de nos propres satisfactions exagérées, on se fait du mal. Et on fait du mal autour de nous. Quand il dit c'est la voie du mal, il faut revenir au début, Ésaïe 14, 12, 15. Le premier à avoir succombé à l'orgueil, et vous le savez, c'est Satan. Que dit Satan? Enfin, que don, que, Ésaïe dit sur Satan, « Quoi donc, tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux au plus profond du nord, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Voilà la base de l'orgueil. Et il nous est donné par ce exemple absolu, le premier exemple de l'orgueil. Et quand on dit que l'orgueil et l'arrogance, c'est la voie du mal, c'est la voie de ce mal-là, qui à un moment ou l'autre va nous faire dire « Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Alors chacun va mettre ce qu'il veut. « Je monterai au sommet des théâtres de France et je serai au journal de France 3. » Enfin, je dis ça dépend pour moi. Après, chacun va le mettre « Je serai au sommet des cuisinières. » Je ne sais pas. Chacun a sa propre vie. Je ne veux même pas... Mais je ne doute pas une seconde que nous n'avons pas chacun notre crise d'ange déchu qui veut monter plus haut de façon exagérée. Donc à partir de cet exemple-là, quand on dit la voie du mal, c'est de cette voie-là dont il est question. Alors là, je vais vous donner trois petits exemples en quelque sorte, où il y a l'exemple et le contre-exemple. Donc là, on a vu Satan, plein de cet orgueil qui veut le faire monter très haut, et le contre-exemple, puisque face à Satan, comme contre-exemple, on ne peut pas prendre n'importe qui, donc évidemment, on va prendre Jésus, voilà, donc dans Luc, alors Luc 4, 1, 13, évidemment, il ne peut être que face à Satan, puisque là, on est au niveau supérieur du combat de l'orgueil. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand il fut achevé, il eut faim. Alors, le diable lui dit, première tentative, sois orgueilleux, t'as un pouvoir, utilise-le. Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Deuxième tentative, le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde. Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes. Tu seras au top. Jésus répond, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Et enfin, le diable, troisième tentative, le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur l'eau du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi ici en bas, car il est écrit que des anges vont venir, etc. Et vous savez que Jésus refuse. Jésus refuse d'avoir l'orgueil de tenter Dieu. Exemple, contre-exemple, là, on est au top. Alors vous allez me dire, oui, mais bon. Mais c'est pour vous faire revenir la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, c'est ce qu'applique Jésus. Je respecte mon Dieu. Je ne me moque pas de mon Dieu. Je n'essaye pas de le remplacer. L'arrogance et l'orgueil, c'est la voie du mal. C'est Satan. Moi, j'y arriverai seul. Et tu peux faire pareil si tu me suis. Revenons à un niveau un peu plus bas. Dans l'Ancien Testament, vous connaissez tous l'histoire de Naaman. Donc dans 2 Rois 5, alors c'était le chef de l'armée du roi de Syrie, qui est donc un pouvoir énorme, etc. Et cet homme était lépreux. Alors lépreux, on n'est pas très sûr, parce qu'en fait... À cette époque-là, la lèpre n'était pas connue sous ce nom-là. Enfin, il avait une maladie très, très, très désagréable. Or, des troupes des Syriens étaient sorties et avaient emmené d'un pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint le rapporter à son Seigneur en ces termes, donc à son roi. La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Alors le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit donc en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Il apporta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre qu'il s'adresse ainsi à moi afin que je débarrasse un homme de sa lèpre, reconnaissez donc et voyez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Intéressant, tentative d'orgueil, t'es le roi, tu peux, fais-le. Et lui dit, oh, éloigne-toi là. Là, la voix du mal, elle est là. Parce que J'aimerais bien avoir ce pouvoir-là ou dire que je l'ai. Mais non, ne me mets pas en dispute avec Dieu comme si je voulais être son égal sur cette guérison. Va-t'en. Et lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il renvoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Qu'il vienne donc vers moi, il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman, pour le moment, est dans un processus plutôt humble. Je suis malade, j'entends parler par une servante, il y a un roi, j'y vais. Comme je suis poli, j'amène plein de cadeaux, parce qu'on ne sait jamais, ça peut se payer. Pourquoi pas ? Et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée ne sort pas de sa maison. Il lui envoya un messager pour lui dire, il pourrait sortir, c'est quand même le roi des armées de Syrie, c'est pas rien, enfin le chef des armées de Syrie. Élisée est dans sa maison et dit, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Le gars, il fait le voyage, on lui donne la solution. Et là, paf, la voix du mal qui sort, à cause de son éducation, de sa position sociale, Naaman fut indigné et s'en alla en disant « Voici ce que je me disais, il sortira bien vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il fera passer sa main sur l'endroit malade et me débarrassera de la lèpre. Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Il s'en retourna donc et partit en fureur. Voilà un homme qui a un problème, il est prêt à beaucoup de choses, il a des moyens pour être sauvé, on lui donne la solution. Et soudain, par orgueil par rapport à qui il est, il s'en va et il refuse cette solution. Quand j'ai lu ça, évidemment que ce n'était pas dans ce contexte-là, mais je me suis dit combien de fois j'ai demandé quelque chose. Dieu a dû forcément me proposer la solution, la guérison au sens, dans tous les sens que vous voulez. Et comme ça ne correspondait pas à ce que j'avais imaginé par rapport à ce que je suis, j'ai refusé cette solution-là. Et je ne l'ai pas eue. Et c'est pour ça que nous sommes une assemblée de frères et de sœurs et que l'Église est importante et qu'on ne peut pas être chrétien chacun de son côté. Car ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils dirent, « Mon père, mais si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait ? À plus forte raison, dois-tu faire ce qu'il a dit ? Lève-toi, lave-toi et sois pur. » C'est ses serviteurs qui ont l'habitude peut-être se taiser. Il dit, « Attends, là, il est en train de nous mettre, il fait n'importe quoi. » Mais fais ce qu'il a dit, c'est tellement simple, c'est bien ça que tu souhaitais. Écoutons nos frères et nos sœurs. Peut-être dans des moments où on est persuadé d'avoir raison emmurée dans notre orgueil quel qu'il soit, quelqu'un me dit, mais attends, tu vois pas les choses sainement, tu exagères ce que tu penses, ce que tu crois, ce que tu imagines sur toi-même, alors que ça va fonctionner comme cela. Et en effet, il va se laver, etc. Et patati, patata. Alors l'histoire continue de façon un peu bizarre parce que le serviteur d'Élisée apprend qu'il est parti et qu'il n'a pas laissé une seule pièce d'or parce qu'évidemment Élisée n'a rien demandé. Du coup il se dit, attends, c'est quand même un peu bête, je suis le représentant de Dieu, d'une certaine manière, Dieu a fait quelque chose, il faut que Dieu soit rémunéré et moi de mon côté. Donc il y va. Il dit, attends, en fait on a oublié de te dire qu'il fallait que tu laisses quelques pièces d'or et quelques vêtements de rechange quand même pour ce qui s'était fait. Évidemment, l'autre, il laisse sa profusion. Lui, il le ramène, il le garde pour lui. Orgueil de se dire, je suis participant. Cet homme qui a été sauvé, c'est un peu grâce à moi, puisque c'est mon maître qui l'a fait, et on participe du même Dieu. Donc j'ai le droit de recevoir ma récompense aussi. Soyons aussi très lucides par rapport à ça. Tout ce qui arrive à quelqu'un de bien, tant mieux si on a pu prier, tant mieux si on a pu intervenir, aider, mais on n'y est pour rien. Pas plus que ce que nous devions faire de par notre présence à côté de cette personne. Mais tout ce qui est gagnant est redevable à Dieu. Alors du coup, bah, il va être puni parce que Élisée va s'en rendre compte et c'est lui qui va récupérer la lèpre de Manaan. Le contre-exemple, vous le connaissez. C'est évidemment celui, je ne vais pas le lire pour conclure, l'eunuque éthiopien, et aussi homme, ministre, grand argentier de la reine, enfin, pas n'importe qui, mais lui, il lit, il cherche, il attend, il y a un gars qui vient, qui ressemble pas à grand-chose, il dit, tu as quelque chose à m'apporter, tu as quelque chose à me donner. Oui, c'est quoi? Et là, cette eau, tu peux me... tout de suite. Il va pas dire, attends, c'est super, tu viens avec moi, on monte dans le champ, on va faire une grande cérémonie, parce que quand même, voilà, simplement. Exemple contre exemple, la crainte de l'Éternel et la voix du mal. Et le dernier exemple, et contre-exemple, nous concerne encore de plus près, puisqu'on est dans le Nouveau Testament, ça va être Paul. Paul est un homme bouffi d'orgueil, bouffi de certitude, et il peut. Grande instruction, grande famille, citoyen romain, pouvoir temporel, pouvoir physique par armée interposée, cet homme a tout. C'est le bras séculaire, il a tout. Et il en profite, et il le sait, et il l'écrit, et il attaque. Et il faut que Dieu, avec lui, vous connaissez cette histoire, l'humilie totalement, le fasse descendre son cheval, le fasse tomber, le rende aveugle, etc., pour qu'il passe complètement de l'autre côté, à grand orgueil, grand remède, en quelque sorte. Heureusement, il a accepté cette punition de Jésus en et une fois que ses yeux sont rouverts, il va foncer, comme vous le savez, dans le ministère dont nous lui sommes tant redevables. Un autre, à la même époque, qui a eu la même chance que lui, même plus, c'est Ponce Pilate. Ponce Pilate, même pouvoir, même force, on la limite encore plus. Et lui, il a vu Jésus. Et vous le savez très bien, Jésus lui a tout raconté, de qui il est, qui il vient, le pouvoir qu'il a, etc. Et l'orgueil de Pilate, c'est de dire, mais dis un seul mot et je te libère. Je fais ce que je veux ici-bas. Et je lui dis, non, non, tu n'as aucun pouvoir autre que celui que je te donne. Le problème, c'est que Ponce Pilate, lui, il reste dans son orgueil. Dieu, c'est pas lui qui m'a créé, il n'existe pas, ou c'est pas ce Dieu-là, c'en est un autre. Faites-en ce que vous voulez. La voix du mal. Paul, finalement, la crainte de l'Éternel. Deux trajectoires totalement différentes, à partir, à la limite, d'une même expérience. Alors, je voudrais conclure. J'y vais plusieurs versets, mais je ne vais pas vous les lire. C'est simplement dans 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, des choses très intéressantes. Mais l'idée, c'est de se dire que l'orgueil, en fait, quelle que soit la... le cadre dans lequel on l'applique, c'est s'attribuer à soi le mérite de quelque chose que Dieu a accompli. Ça va très loin. C'est dans 1 Corinthiens 4, 7, vous le verrez. Ça va très loin. Le nombre de fois où on va s'attribuer un mérite alors que c'est Dieu qui l'a accompli. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas user de ce qu'on a reçu. Évidemment. Sinon, c'est du gâchis. C'est les fameux talents qui sont cachés, vous savez, dans la parabole. Mais n'oublions jamais de se dire que nous ne sommes que les passagers, que les transmetteurs, que de quelque chose qu'il nous a donné. Et deuxième chose, ceux qui s'élèvent contre Dieu, c'est-à-dire qui refusent d'accepter le début du psaume que l'on a lu, ceux-là courent au désastre. Il n'y a pas de pseudo-culpabilité, de loi d'amnistie. Pas contre ça. Contre tout le reste, d'accord, mais pas contre ça. L'orgueil de Satan, c'est-à-dire je suis plus que Dieu. Donc, si je suis plus que Dieu, Dieu n'existe pas, en quelque sorte. Cet orgueil-là, il est irrémissible. Il mène au désastre. Et à tous nos interlocuteurs, calmement, gentiment, mais disons-le, quitte à passer pour des fous, mais disons-le, mais surtout appliquons-le pour nous, parce qu'on ne peut pas jouer comme ça, sur le fil, en disant une fois je tombe dans le désastre, une fois je ne tombe pas. Et troisième chose, ce que nous disons de nous-mêmes, c'est dans 2 Corinthiens 10, 13, n'a aucune incidence sur l'œuvre de Dieu. On peut raconter ce qu'on veut sur soi, ce que j'ai fait, ce que je suis devenu, ce que je pense. Ça ne change rien. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de nous. N'oublions jamais qu'on a cette relation individuelle, personnalisée, et que c'est ce que lui dit de nous, c'est ce que lui pense de nous qui a de la valeur, c'est pas ce que nous, nous disons de nous et nous pensons de nous. Après, c'est pour ça que la relation avec Dieu est extraordinaire, parce que c'est une relation d'une telle humanité. Je veux juste revenir à la définition du petit Littré, du Robert. Sentiment exagéré de sa propre valeur. Exagéré. Être chrétien, c'est savoir quand est-ce qu'on exagère, quand est-ce qu'on n'exagère pas. Quand est-ce qu'on a le droit d'être un homme, une femme, de le revendiquer, de le dire, mais quand est-ce qu'on ne franchit pas la ligne rouge qui, hop, nous fait passer du côté obscur de la force, du côté de la voie du mal. Donc je voudrais juste vous relire ce psaume, si vous permettez, dans l'ordre que j'ai proposé. Et pendant ce moment-là, j'aimerais que, moi y compris, on pense chacun à ce moment d'orgueil où on rentre dans la voie du mal, où on n'est plus dans la crainte de l'Éternel. Alors on sait que ce n'est pas quelque chose qui nous ferme la porte, mais quelque chose qui fait qu'on profite moins. Quand on ferme à moitié une porte, on a moins la lumière du dehors qui rentre. Là, je suis en train de jouer une pièce sur la chef de M. Seguin, et à un moment, je dis tout un texte d'Alphonse Daudet qui dit « Quand j'étais sur mon moulin, j'ouvrais grand la porte. » Il disait « Quand je voulais le jour, le grand jour, j'ouvrais ma porte tout entier et la lumière joyeuse et abondante se précipitait chez moi comme l'eau par une écluse. » C'est ça qu'il faut faire. Nous, on vit dans un moulin, il faut toujours ouvrir la porte à fond, pas à moitié, pour que cette lumière joyeuse et généreuse et abondante, elle nous illumine. Et ce qui ferme un peu cette porte, ce sont tous nos orgueils, tous les sentiments exagérés par rapport à ce que nous sommes vraiment nous-mêmes par rapport à lui. Je vous le redis. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Venez avec des acclamations en sa présence. Lancez une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération.